C'est la place à Luc. Tu préfères baladeur ou...
C'est possible qu'on ait juste la première rangée de lumière ou pas? Comme ça, on verra un peu plus clairement.
D'ailleurs, les autres aussi, on peut les éteindre.
Merci.
Merci. Bonjour, je m'appelle Luc. Je suis marié avec Sonia depuis 20... Ah non, si je l'ai déjà fait. Voilà, c'était une joie d'être avec certains hier après-midi, enfin hier soir. Et c'était un bon échange. Alors ce matin, donc, je ne vais pas faire la suite d'hier parce que je ne voudrais pas, que ceux qui n'étaient pas allés hier se sentent mal. Vous devriez ? Non. Non. Non, je veux dire, en tout cas, ce n'est pas la suite d'hier, mais pour ceux qui étaient là hier, c'est une suite. Voilà, ce qui fait qu'en fait, tout le monde est à l'aise ce matin. On recommence une prédication qui n'est pas la suite, mais qui pourtant l'est quand même. Alors on va parler un peu de la culture du royaume ce matin, on peut l'aborder de plein de façons, on peut l'aborder avec plein de versets de base, on peut effectivement faire plein de choses. Hein. Le royaume de Dieu dans la Bible, c'est une ouverture pour des centaines de prédications. Et puis après, je me suis dit, bon, peut-être que je vais changer, je voudrais peut-être prêcher pour la première fois que je n'avais jamais entendu tétra... Vous avez déjà entendu ça? Non, ça c'était pour la blague. On a ri hier, puis on a ri encore ce matin quand on aura reparlé de ça, voilà. Non, c'est pas là-dessus que je vais prêcher. Quoique, ce serait intéressant d'aborder le royaume de Dieu sous cet angle-là. Et il y en aurait à dire. Voilà, donc, moi je l'aborde avec trois choses. Le royaume de Dieu, c'est pas l'Église. L'Église, c'est le royaume de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est quelque chose de global dans lequel il y a l'Église. Mais le royaume de Dieu ne se cantonne pas à l'Église. Le royaume de Dieu est bien plus large que l'Église. Il dépasse largement les frontières de l'Église. Et donc, c'est en ce sens-là que je dis que le royaume de Dieu n'est pas l'Église. Il ne faut pas enfermer le royaume de Dieu dans l'Église. Il ne faut pas enfermer le royaume de Dieu dans notre façon de voir l'Église. Ce serait un tort et ce serait un enfermement de quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Alors, je vais présenter trois dimensions, on va dire, qui pour moi résument ce que c'est le royaume. La première chose, et elle est prioritaire, c'est la centralité du roi. Par définition, un royaume, il y a un roi, et il ne faudrait pas qu'on devienne adorateur du royaume. On est adorateur du roi, et c'est lui le centre. C'est pas quelque chose, c'est pas un fonctionnement. On n'est pas en train d'adorer une structure, on n'est pas en train de valoriser juste un fonctionnement avec des méthodes, avec des recettes et des choses comme ça. Non, le royaume de Dieu a un fonctionnement, mais celui qui est au centre, c'est le roi. Et donc, c'est Christ en tant que roi qu'on veut mettre en avant et c'est lui qu'on veut adorer, c'est lui qu'on veut honorer, c'est lui qu'on veut mettre comme en première place. La deuxième chose, c'est la communauté. Et elle arrive en deuxième, pas en premier. Elle arrive en deuxième. Donc on pourrait dire tout ce qui relève de la vie de l'Église. Hein. Et puis la troisième chose, et ça a un ordre aussi, mais on l'oublie toujours, souvent, c'est la cité. Donc vous avez remarqué, c'est trois mots qui commencent par C et qui finissent par TE. Comme ça, mémotechnique, c'est plus facile. Donc, la centralité, la communauté et la cité. S'il n'y a pas ces trois facteurs dans ta vie, tu as une vision et un vécu du royaume de Dieu qui est un peu tronqué. Donc, le royaume de Dieu, c'est tout ça. Et bien sûr, le royaume de Dieu, c'est le centre de ça, dans le sens que c'est ce qui englobe l'ensemble. Et Jésus est au centre, Jésus est parfait. Lui, il a pas de problème, lui. Nous, on a des problèmes avec nos têtes, avec nos conceptions, avec notre façon de vivre, même des fois avec la façon de vivre la vie chrétienne. Lui, il n'a pas de problème, il est parfait, il est en phase avec lui-même, il est cohérent avec lui-même et il est clair avec lui-même. Donc, ces trois choses-là, centralité, communauté, cité, c'est ce que Dieu veut qu'on soit et qu'on fasse. Alors, on va un peu développer ça d'une autre façon, hein, on va le voir sous plusieurs aspects et j'espère qu'à la fin de ce culte, il y aura quelque chose qui sera... une pièce qui sera tombée ou quelque chose qui aura permis d'aller plus loin. Non pas que vous soyez bête. Hein. Quoique on l'est tous un peu. Non, je ne prétends pas être meilleur que vous ou que vous soyez manquant de quelque chose, mais on a tous besoin de grandir au fur et à mesure dans notre vie chrétienne. Ah, t'arrives maintenant toi ? On va attendre que monsieur se prenne place, s'installe. Ça va aller ? Merci. On peut commencer ? On peut continuer ? Et déjà hier soir, il est parti avant la fin de la réunion. Il est le seul à être parti, hein. Hein, vous avez remarqué ceux qui étaient là, il est le seul à être parti, franchement. Non, mais faut dire les choses, hein. Faut le dire, faut dire la vérité. Ah oui, ah vous êtes madame. Eh ben moi, je reprendrai la bande qui a été enregistrée parce que il y a des applaudissements à un moment dans la salle, c'est bizarre. Et une dénonciation par rapport à une certaine... Oh, ça c'est petit. Alors là, c'est très petit. Alors là, franchement, au niveau là... Non, j'attendais beaucoup mieux que ça. Bon, tu me fais perdre mon temps, là. C'est ça qui est bien avec l'Église, c'est qu'on n'est pas obligé d'être figé, ringard et puis légaliste. Parce que tout ça, c'est la présence de Dieu, c'est la maison, c'est la famille, c'est tout ça la vie de l'Église. On n'a pas besoin d'être... C'est le moment de l'Église. Alors, franchement, quand on dit ça, on dit, mais bien sûr, Luc, en fait, c'est logique, mais oui. Ouais. Mais des fois, on arrive un peu guindé, tu sais, c'est le moment de l'Église, donc on va à church, et on change d'ambiance, on change le masque. Mais voilà, tout ça, c'est la vraie vie. Et il faut qu'on soit ici comme on est dans la vie normale, puisque ici, c'est la vie normale. Sauf si vous manque le dernier cercle. Si votre vie chrétienne ne tourne que sur Dieu et l'Église, effectivement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça ne sert pas à grand-chose. Juste pour le gagne-pain. Bon, la famille, quand même, c'est important, mais... Mais si notre vie chrétienne n'est que sur les deux premiers axes, on a un souci. Donc, centralité 1, communauté 2, cité 3. Alors, on le dit d'une autre façon. C'est aimer Dieu. Puis, si on prend des mains, on comprend mieux aussi ce que ça veut dire. Donc, les mains sont tendues vers Dieu. Alors, je sais bien que quand on prie, on n'est pas obligé de mettre nos mains comme ça. Hein. C'est pas grave si on ne le fait pas. Hein. Mais c'est juste un signe. On est en position d'humilité devant Dieu. On est en position de « je te demande, je ne suis pas au niveau, c'est une grâce, mais je te le demande. Je t'en supplie, aide-moi, ou je t'en supplie que ton règne vienne. » Enfin, il y a une notion de « mes mains sont jointes parce que je suis en demande et je suis centré sur toi. » Et c'est toujours la priorité d'aimer Dieu. Puis la deuxième chose, c'est d'aimer ses frères. Et là, on est plus dans un échange mutuel. On est sur une main tendue, ça veut dire « je te donne, tu me donnes ». Et je rappelle que aimer, vous savez, il y a agapéo. Pour agapéo et philéo, et puis vous avez plusieurs autres termes, c'est pas le but de parler de l'amour ce matin de façon ciblée, mais vous avez bien des mots qui signifient des choses. Et donc, dans l'amour philéo, c'est un amour réciproque. Je donne et j'attends que tu me rendes. Oh, c'est de l'amour intéressé. Mais oui. Mais vous croyez quoi? Que Jésus, il a un amour désintéressé? Attention, il y a un piège. Je préviens parce que ceux qui étaient là hier le savent. D'ailleurs, il n'y a pas de manifestation à ce moment-là. Et on se dit, alors c'est quoi? Exactement, c'est oui et non. Bravo. Il y en a qui étaient là hier, c'est bien. Ou en tout cas qui sont intelligents. C'est oui et non. Jésus, il est désintéressé dans le sens qu'il donne son amour, il donne sa vie, il donne de toute son énergie, il vient sur la terre et il ne calcule pas qui va donner la réponse positive ou pas. Donc dans ce sens-là, c'est désintéressé, mais son amour est intéressé puisque quand il meurt sur la croix, il veut des récompenses de son sacrifice. Et chaque fois que quelqu'un donne son cœur à Jésus, il y a une super méga teuf au ciel. Enfin, une super méga fête, pardon. Parce que c'est une joie supplémentaire de « Ah, la mort de Jésus a permis encore à quelqu'un d'être sauvé. » Donc il y a une joie incroyable, c'est une réalité, c'est la fête. Parce que c'est une récompense et donc Jésus il a donné sa vie dans le but, avec un intérêt qu'il y ait du retour. Dans un couple, bon je ne sais pas s'il y a des gens mariés ici, je ne sais pas, peut-être que pas après tout. Hein. Normalement dans un couple c'est « Je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi. » Maman. Oula. Ok. Bon, comment dire? Je vais changer ma prédication finalement. Je vais parler sur le couple aujourd'hui. Quand on aime, si je suis amoureux, j'espère bien qu'il y a un retour. Sinon, c'est terrible, non? Donc, c'est bien un amour intéressé. Ok. Donc, cet amour-là, je sors du couple, je reviens sur la fraternité. Philéo, il attend une réciprocité. Ça veut dire dans l'Église, on s'aime. Et on s'aime les uns les autres. Et je t'aime et j'espère que tu m'aimes. Vous auriez pu dire amen. Non ? J'ai dit vous auriez pu. Donc il y a vraiment cet échange, on va dire, à égalité. Et puis, forcément, vous connaissez la suite, aimer les autres jusqu'à ses ennemis. Et là, on est dans des mains tendues, sans intérêt. Et donc, l'amour de Jésus est aussi désintéressé. Et donc, je dois avoir un amour qui est intéressé, j'attends le retour de l'autre, mais j'ai aussi un amour qui est désintéressé, je donne sans attendre de retour. Je donne et je prête sans attendre que quelqu'un me rende, la Bible dit. Voilà, mais ça, vous connaissez, hein, l'amour. Je ne prétends pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Je voudrais juste peut-être voir à quel point les trois cercles là sont identifiés par Jésus. Donc Jésus dit que l'amour, c'est le commandement number one. C'est ça, hein, il a dit que c'était le commandement principal d'aimer Dieu. Et le 1 bis. Ah oui, vous me décevez, je pensais que vous étiez beaucoup mieux que ça. Ah non, vraiment, je tombe par terre là. C'est pas d'aimer les autres, hein. C'est d'aimer les autres comme soi-même. Ah, c'était dit ? Non. Mais pas la première fois. Si ? Ah, c'est ça, c'était très très doucement. Pardon, excusez-moi alors. Donc, aimer l'autre comme soi. Donc, j'aime Dieu, je m'aime, j'aime les autres. Ah non, Luc, c'est égoïste. Non. Je m'aime avant les autres. Parce que comment je peux aimer les autres comme moi-même si je ne m'aime pas d'abord ? Ah, je sais, c'est une sacrée gymnastique intellectuelle. Hein. J'ai fait Sciences Po. C'est pas vrai. Notre amour, il est envers Dieu, number one. Je m'apprécie, je m'aime parce que Dieu m'a créé comme je suis et j'aime les autres. Et si on prend ça dans la vie chrétienne, j'aime Dieu, j'aime mes semblables, donc j'aime même moi, enfin, ou j'aime les autres qui partagent la même foi et j'aime les autres jusqu'à mes ennemis. Et donc, tu as encore à nouveau la dimension avec Dieu, la dimension avec la communauté et la dimension avec la cité. La culture du royaume, c'est d'avoir toujours dans son viseur la cité, d'avoir toujours la perspective des autres. Ma vie chrétienne, c'est pas parce que je m'aime moi que je dois ne m'aimer que moi. Parce que ne m'aimer que moi, ça s'appelle de l'égoïsme, écocentrisme, tout à fait. Et Jésus ne veut pas ça. Même il dénonce. Donc, j'aime Dieu, je m'aime, j'aime les autres. Ou si on le traduit en termes de communauté, j'aime Dieu, j'aime mes frères et sœurs, et j'attends et j'espère qu'ils m'aiment aussi un peu. Un peu ? Un petit peu. Et à notre tour ensemble, nous aimons les gens de la cité. On peut le redire encore différemment. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des églises qu'on appelle missionnelles, plutôt en Angleterre pour le moment. Up, donc vers le haut, vers Dieu. In, à l'intérieur de nous, entre nous. And out. Up, in, and out. Ça, c'est... Si on retient ça, on a retenu l'essence même du royaume de Dieu. Si on retient ça, on a compris une dynamique qui a une dynamique qui va vers Dieu, une dynamique entre nous et une dynamique vers les autres, vers la cité. Et souvent dans nos églises, la dynamique vers les autres, elle est faible. Ou alors c'est pour l'évangélisation. Waouh ! Si tu fais une conférence pour des miracles, tu as des milliers de Christians. Mais si tu fais une convention pour aller servir les gens dans la cité, tu as des milliers qui regardent la conférence de loin. Il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup moins vendeur. Jésus, il a envie, il souhaite que son peuple soit des gens concernés par les gens de la cité, qui aiment la ville dans laquelle ils sont, qui aiment les gens qui sont autour d'eux, qui aiment leur mère, qui aiment leur père. Non, là, j'étais en train de parler du maire de la ville, qui aime leur maire, qui aime les ministres, son président. Dieu nous demande d'aimer. Et aimer, je ne sais pas comment vous aimez votre femme, votre mari ou vos enfants. J'espère que vous les aimez en ne disant pas que « Oh, ce François ou ce Nicolas, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls ?» J'ai pris des prénoms au hasard, hein, je veux dire, n'y voyez absolument aucune... Tout de suite. On doit aimer, et aimer ça veut dire porter de l'attention et porter une attention positive. Ça ne veut pas dire qu'on approuve, à aucun moment. Ça ne veut pas dire qu'on doit voter pour eux, à aucun moment. Non, il faut voter. Hein. Même si vous votez blanc, faites au moins votre devoir citoyen. Il vaut quand même mieux être dans une démocratie un peu bizarre que dans une dictature, non ? Demander à ceux qui sont persécutés. Donc c'est quand même une chance d'avoir une démocratie, même si elle est un peu tordue, beaucoup. N'empêche qu'on est libre. Vous n'avez pas été suivi en venant ici, il n'y avait pas la police derrière vous. C'est affreux. Donc, la dimension vers Dieu, la dimension entre nous et la dimension vers les autres. Et ça doit être à chaque fois une question dynamique. Le royaume de Dieu, en grec, prostonteon, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Et si vous voulez l'image du royaume de Dieu, c'est dans Ézéchiel, je crois, vous savez, il y a les roues. Vous avez déjà lu cette histoire-là ? Qui vont dans quel sens ? Ça tourne dans n'importe quel sens, tu comprends pas, c'est bizarre. C'est bizarre le royaume de Dieu, ça s'enferme pas dans une boîte. Moi quand j'étais gamin, c'est peut-être ça qui m'a marqué avec le tétra. Morph. C'est que quand j'étais gamin, c'était le passage que... Alors avec mes parents, il fallait lire la Bible tous les jours. Ce passage-là, il m'agaçait. Donc Apocalypse ou... C'est quoi dans Ézéchiel ? Bah aussi Ézéchiel. Donc il y a les deux passages dans Ézéchiel et Apocalypse. À chaque fois, je trouvais ça monstrueux. Un être vivant avec une face d'homme, une face d'aigle, une face de bœuf et une face de lion. C'est quoi cet embrouille ? Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Bah ça, c'est le royaume de Dieu. C'est quelque chose que tu ne mets pas dans une boîte. Ça ne s'attrape pas avec des personnes humaines comme nous. Ça nous dépasse, ça nous échappe. Mais il y a une dynamite. Une dynamique. Oui, c'est une dynamite aussi. C'est une dynamique. Et ces roues-là qui vont dans tous les sens, elles vont à droite, à gauche, en haut, en bas, elles tournent là, et puis là-bas, et puis là, et là. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça le royaume de Dieu. C'est un truc que tu ne pourras jamais mettre dans une boîte. Et mon schéma ici, c'est juste pour aider à la compréhension. En aucun cas, tu peux enfermer Dieu là-dedans. Hein. En aucun cas. C'est pas possible. Mais en tout cas, tu vois, moi, je suis issu d'un milieu charismatique où on pensait que ça, du moment que tu es avec Dieu, du moment que tu développes la dynamique vers Dieu, alors forcément, tu es charismatique, tu es génial, tu es meilleur que les autres. Ouais. Moi, je vais te dire, je côtoie beaucoup de gens qui sont dans le milieu charismatique et je dirais même peut-être des fois ultra charismatique et qui en oublient un peu la communauté et qui oublient carrément la ville. Parce que c'est le péché. Non, on ne peut pas jouer à ça. On ne peut pas. Dieu aime les gens, il est venu sur la terre. Si Jésus, il est venu sur la terre, tu penses bien que nous, on doit y aller aussi. Parce que sinon, il y a un truc qui ne va pas. Alors, on peut encore le dire autrement, et je vais prendre deux textes. Luc 6 et Michée, ou Mickey, hein, ça dépend si vous dites Malachi ou Malachi. Ça dépend comment vous le dites. Hein. Donc, Michée ou Mickey, comme vous voulez. En tout cas, c'est dans les chapitres 6, les deux. Alors, on a Jésus qui est avec ses disciples. Enfin, il monte, il va sur la montagne. Ensuite, il appelle ses disciples et ensuite, il va dans la vallée. Et Michée qui nous donne, pas un modèle, mais un principe de comment on doit vivre notre vie chrétienne. Donc, Jésus, il prie. Et il est sur la montagne. C'est symbolique. Enfin, il a été vraiment sur la montagne, mais je veux dire, bibliquement, dans la Bible, la montagne symbolise le fait d'aller vers Dieu. Alors, c'est pas parce que tu es sur une montagne que tu pries mieux que si tu étais à la cave, hein. D'accord ? Parce que moi, j'en entends aussi des fois, en ce moment, chez certains charismatiques, il y en a qui disent « Oui, il faut vraiment avoir dans l'église le point le plus haut pour toucher la présence de Dieu. » Ouais, t'as fumé la moquette du mauvais côté. Hein. Vraiment. Bon, là, on a la chance, on est un peu plus haut déjà. Vous êtes une église un peu plus spirituelle. Mais il y a mieux que vous. En Allemagne, j'étais dans une église au cinquième étage. Ils avaient tout le bâtiment, hein, mais ils n'occupaient que le cinquième, c'est l'endroit le mieux. Oui, vous avez la lumière à tous les étages chez vous aussi ? Bizarre. Donc il y a bien la notion d'aller vers Dieu, la question de la hauteur spirituelle, je me laisse emporter dans les hauteurs spirituelles, ça veut dire je me détache des choses d'ici bas, je me détourne des choses d'ici bas, c'est un choix. Mais je ne reste pas là-haut, parce que Jésus lui-même n'est pas resté là-haut. Vous avez remarqué que Jésus, il a mangé. Et puis avec des gens pas bien, hein. Il a mangé avec qui, Jésus ? Des prostituées, des collecteurs d'impôts, des publicains. Jésus, aujourd'hui, il irait manger où ? Non, il prierait pour les... il prierait pour les policiers. On dirait que t'es drôle. Excellent. Jésus, il irait manger avec qui aujourd'hui? Il irait manger soit avec Nicolas, soit avec François, ou il irait manger avec Guélib, ou avec la LGBTRV2, je sais pas. Non, la ligue pour les... l'association pour les lesbiens, les lesbiennes, il irait manger là. Nous, on fait quoi? Des manifs. Est-ce qu'on a l'endroit? Est-ce que c'est juste de contester seulement? Jésus, il a eu la possibilité et l'autorité de contester parce qu'il avait l'amour. Et l'amour se traduit toujours dans des actes. Et je ne veux pas nous écraser, je ne veux pas nous culpabiliser, j'aimerais juste dire qu'on n'est pas à la hauteur. Sans que ça laisse de place à la culpabilité. Juste que ça laisse de la place à la progression. Parce que le royaume de Dieu, il a besoin de grandir dans ma vie. Et d'ailleurs, je crois que Jésus, on a fait une prière type. Que ton règne vienne. Tous les jours. Que ton règne vienne. Et donc, ça demande bien une progression de ma vie dans ce royaume. Et ce royaume est lui-même en mouvement et je dois moi-même être en mouvement dans ce royaume. Je dois être dans un cheminement, je dois être dans une dimension de progrès. Je pense qu'on a de l'autorité pour faire une manif quand on a nous-mêmes fait des actes. Et je demande au pasteur qui organise ces marches, je leur dis, est-ce que tu invites chez toi un homosexuel? Tu as déjà fait ça dans ta vie? Ah mais Luc, mais enfin, mais quand même! Non, s'il te plaît, est-ce que tu as déjà invité un homosexuel chez toi? Ah non, non, non. Bon, est-ce que tu as déjà mangé dans une association avec eux? Mais Luc, mais alors pourquoi après tu peux juste aller les critiquer, juste les dénoncer? Mais dénonce tous les péchés, fais des manifs tous les jours alors. Parce que je peux te dire qu'il y a un péché qui est pire que les autres. C'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, il a un super moyen. La télé. Ou l'image. Ou la connexion avec l'image aujourd'hui. Donc, si on va faire une manif contre les homos, pourquoi on ne fait pas une manif contre la télé? On aurait l'air barge, hein. On aurait l'air un peu allumé de la tête, hein. Moi, je dis, je ne suis pas contre qu'on fasse, hein. Je dis juste, pourquoi on met ça en premier? Pourquoi on a une réaction légaliste en premier? Parce qu'en fait, on a du mal à appliquer ces trois choses et qu'on ne veut pas descendre dans la vallée. On considère que ça, c'est le péché. On préfère rester dans la présence de Dieu et prier pour la vallée. Mais Jésus, il est dans la prière. Ensuite, il appelle ses disciples. Donc, il y a le sens de communauté, les uns ensemble qui ont la même foi. Et on va vers les autres. On ne reste pas à prier dans les hauteurs en disant « Seigneur, bénis le monde et ses environs. Et tu vois combien le monde est pécheur. Je ne peux pas les aimer, mais toi, oui. » C'est plein d'amour, ça. Hein. Ça donne envie. Je caricature, certes. Mais quand même, je pense que avant de juger les gens, il faut d'abord qu'on ait de l'amour. Et parce qu'on les aime, alors on peut dire quelque chose. Parce qu'on les aime, alors on peut dire quelque chose, mais pas le contraire. Et du coup, on ne va pas passer pour des légalistes religieux, on va passer pour des gens qui sont peut-être un peu pas bien, mais quand même respectables. Moi, les gens qui sont autour de moi dans l'équipe, des fois, ils se disent, mais le pauvre Luc, là, il est un peu frappé, quoi. Et c'est vrai. Bah, ne ris pas, ne te moque pas de moi, dis. Mais enfin. Et on avait déjà un là-bas qui nous faisait le bazar pendant le culte. Tu vas pas commencer à déporter l'attention pour... Oui à la vie spirituelle. Oui au culte. Oui à l'adoration. Oui au temps perdu dans l'adoration à Dieu. Oui. Je fais exprès de dire du temps perdu, hein. Je choisis dimanche matin plutôt que de faire la grasse mat quand on a tellement papoté, on m'a pris la tête jusqu'à 1h30 du matin parce que j'ai pas... Non, non, pardon. Non, les coupables sont tous étaient tous là au même endroit et ils ont tous été coupables. Tout d'un coup, je sais pas, c'est toi qui as dit qu'il faudrait aller se coucher. Je dis, ah oui. Ouais, on peut aller se coucher, c'est bien. On était dedans. Hein. Mais un dimanche matin, moi j'ai plein de choses à faire un dimanche matin que d'aller perdre mon temps à l'église. Mais c'est un choix. C'est un choix de prendre du temps avec Dieu pour lui rendre l'honneur, la gloire et pour lui dire tu es le centre, tu es le number one de ma vie et c'est trop facile de se laisser absorber par les choses de la vie. Donc régulièrement, chaque dimanche, je remets ça. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas que le dimanche, mais le dimanche, en tout cas, c'est un moment, un rendez-vous qu'on a officialisé dans notre agenda pour dire « je remets Dieu au centre de ma vie » parce que c'est tellement facile de glisser. Je suis environné par tellement de gens qui voudraient me faire tomber. Et il y a aussi une nuée de témoins qui regardent, qui se disent « comment lui qui va faire là ? Est-ce qu'il va se laisser embarquer dans sa vie politique ? Est-ce qu'il va se faire embarquer dans son business d'église ?» Oh non. Non, l'église, c'est un lieu saint. Il n'y a pas d'embrouille là. Les pasteurs ont la chance, ils ont le meilleur métier du monde. Le mieux payé, avec le moins de problèmes possible. Non, c'est... Et ils font rien de la journée. Pff, c'est royal. Mieux que les policiers. Les policiers, on sait qu'ils foutent pas grand-chose, mais un petit peu quand même. On les voit de temps en temps derrière leur volant de voiture à faire des patrouilles. Donc on les voit un peu. Les pasteurs, tu les vois dans la rue, toi, non hein? Non, vraiment, ils fichent rien du tout. C'est pire que pire. Il faut qu'on ait une vie qui est cohérente. Et il faut qu'on arrête de se cacher derrière un fonctionnement d'église qui est notre façon de gérer l'église classique. On attend de spécialistes qui fassent le boulot, celui qui conduit la louange, et bien qu'il fasse le boulot correctement, celui qui préside qu'il le fasse correctement, celui qui prêche qu'il le fasse correctement et qu'il arrête de nous faire rire, c'est pas marrant. Et puis, je viens de dire qu'on arrête de rire quand même. Et c'est, on a une forme d'exigence, alors qu'en fait Dieu veut qu'on soit tous impliqués dans cette vie d'église. C'est ton église. C'est pas l'église de choses, machin, trucs, bazar. C'est ton église à toi. Ah non, c'est pas mon église, c'est celle de Jésus. Non, arrêtons avec ça. Non, c'est mon église. C'est ma famille. C'est ma famille, quoi. C'est mon église. Moi, j'ai mon église. Et si vous me demandez le catalogue des failles de mon église, je vous le fais. Mais c'est mon église, c'est ma famille. C'est là que j'aime être. Et je suis content aussi d'être là et de visiter d'autres églises. Mais c'est mon église et je suis fier de mon église. C'est ma vie. Ah oui, mais parce que t'es le pasteur. Non, rien à voir. C'est juste parce que j'aime être dans un endroit où je sais que je suis aimé par les autres et que j'ai pas besoin de faire semblant, de faire des simagrées pour avoir l'air d'être un super pasteur spirituel et je dois accrocher les élastiques pour faire garder le sourire intact. Non, je peux être qui je suis avec mes failles. Je peux être qui je suis parce que je suis qui je suis et eux, ils sont qui ils sont et ils ont aussi le droit d'être qui ils sont. Et en tant qu'église, on se dit, on a une mission, il faut qu'on aille vers l'extérieur. Et si on fait juste des simagrées entre nous, si on fait juste du cinéma ou si on fait juste, on joue à l'église, comment est-ce qu'on peut impacter les autres? On est complètement incrédible. Ça le fait pas, hein, c'est pas non crédible. C'est mieux, hein. Je suis en train de me dire, ça va pas. Alors si on prend Michée, il est dit, aime ton Dieu humblement. Donc ça rejoint les mains qui sont jointes, les mains qui sont comme ça en supplication. On est dans une demande, on est dans une attente, on est dans une dépendance à Dieu, on est dans une soumission à Dieu. Il est notre patron. Ça fait pas joli de dire ça. Et pourtant, c'est la vérité, c'est notre chef. Et donc, c'est à lui qu'on se soumet. Et puis, il y a la bonté qu'on manifeste entre les frères. Et puis, il y a la justice. Et la justice, elle s'applique jusqu'à notre ennemi. Je fais justice à celui qui est dans la précarité, celui qui est dans la difficulté. Et c'est à moi qu'il incombe de la démontrer. Est-ce que je dois faire des choses grandioses? Est-ce que je dois avoir des résultats? On reparlait encore du résultat dans la voiture ou du fruit, ce qu'on appelle le fruit. Est-ce que tu as des fruits dans ta vie? T'as converti combien de personnes? Et t'en as guéri combien? Et t'as donné combien de dons? C'est quand la dernière fois que tu as prêché? Mais je ne suis pas pasteur, ça n'a rien à voir. C'est quand la dernière fois que tu as prophétisé? Oh, mais moi je ne suis pas prophète, ça n'a rien à voir. C'est quand la dernière fois que tu as dit la bonne nouvelle, je suis pas évangéliste, ça n'a rien à voir. Si on commence à faire la comptabilité des choses qu'on fait et qu'on fait pas, on va se massacrer. Hein. C'est pas l'église de Jésus, ça. Ça s'appelle pas la grâce. Mais la grâce, c'est pas non plus de rien faire. La grâce, c'est pas cool, Raoul, à l'aise Blaise. C'est pas je fais tranquille ma vie chrétienne, je vais à l'église si je suis en forme. Si le monsieur avec ses lunettes m'a dit bonjour, ça fait 3 dimanches que je vois qu'il ne me dit pas bonjour. Si le 4e ne me dit pas bonjour, je ne vais pas au culte la prochaine fois. Bon, ça n'existe pas non plus dans nos églises, hein, c'est juste de la fabulation. Ah bon? C'est vrai? Donc vous êtes une église imparfaite? Waouh! Alors j'aimerais parler de l'économie du royaume, parce que c'est un moyen, non pas de faire de la comptabilité de ce qu'on fait, non pas un moyen de voir si on a du fruit dans le sens la culpabilisation évangélique qu'on sait très bien faire, mais juste de dire, tiens, un sujet concret, comment je mélange ces trois choses ? D'avoir Dieu en premier, toujours Dieu en premier, et ça revient sans arrêt, c'est une dynamique. Hein. J'ai toujours Dieu qui revient en premier, et puis il y a les frères, et puis la ville. Et puis Dieu en premier, et puis les frères, et puis la ville. Et puis Dieu en premier, et la communauté, et la cité. Et toujours, c'est un cycle récurrent. Alors l'économie du royaume, c'est assez intéressant, on en parle rarement. Et pourtant, le jubilé, c'est bien dans l'Ancien Testament. Oui, mais Luc, t'avais pas compris qu'on était passé dans le Nouveau ? Si, si. Et j'ai même compris que Jésus, il a même pas dit qu'il venait avec le jubilé, il a dit « Je suis le jubilé ». Et nous, on balaye le jubilé comme ça. Ben, le jubilé, ça veut dire qu'il a fait grâce. Non, non, derrière le jubilé, il y a toute une dimension économique. Et en dehors de l'économie, on ne parle pas de fric ou de boulot, mais on parle de comment on tisse les relations entre les hommes. Et le jubilé, c'est incroyable les choses qu'on peut prendre de ça pour vivre la foi dans la cité. Et je pense qu'on doit revenir à ça parce que c'est ce qui draine la parole de Dieu. Alors, si on prend le jubilé, je vais faire des raccourcis hein, parce qu'on ne fait pas un séminaire d'une semaine. Ça vous rassure, ça va ? Donc on va le faire en raccourci et en très short. Donc il y a le sabbat ou le shabbat comme vous voulez, hein, la shemitah et le yovel. Le yovel pour dire le mot jubilé. Hein. Le mot jubilé n'existe pas. C'est le mot Yovel et il ne veut pas tout à fait dire ce qu'on lui fait dire. Donc le sabbat, c'est Dieu qui est propriétaire et libérateur. Dieu, il donne deux raisons. On va citer les textes juste après. Dieu, il donne deux raisons pour faire le sabbat. La première, il dit, c'est parce que je suis propriétaire de toute la terre. Et je veux qu'on fasse pause pour se rappeler qui est le boss. Et s'il le dit une fois par semaine, c'est que nos petites têtes vont très très vite en besogne et très vite on se détache de Dieu. Donc Dieu dit que régulièrement, il faut instaurer un fonctionnement, un principe, je ne parle pas d'une règle, mais d'un principe de vie qui fait que je fais une pause, parce qu'il est propriétaire. Et il y a un autre texte qui dit plus tard, parce que je vous ai libéré d'Égypte. Donc pour les deux raisons, il faut faire le sabbat. C'est Dieu qui est propriétaire de ma vie, c'est lui qui a initié la vie, et c'est lui aussi qui m'a libéré. C'est pour les deux raisons que je prends le temps de l'adorer le dimanche matin avec les autres. Et puis c'est aussi un repos des hommes. C'est une obligation que tu sois serviteur ou propriétaire. Tu t'arrêtes, tu fais pause. Et puis c'est le repos des terres. On est là pour cultiver la terre. Dieu a donné ce mandat à l'homme avant la chute. Le travail, il a été inventé par Dieu avant le péché. Hein. Allô ? Vous êtes parti ou pas encore ? Ça va, quelques-uns sont un peu là. Ce côté-là a l'air d'être parti complètement. Là, ça va à peu près. T'as vu comment ils s'énervent ? Non seulement ils sont pas là, puis en plus ils râlent. Des Français, quoi. Donc, le repos des terres. La terre. Je suis pas adorateur de la terre, moi. Oui, mais c'est pas. On n'est pas des adorateurs de la terre, mais on est des respectueux de la terre. On est respectueux de l'outil que Dieu nous a donné. La Shemitah, c'est tous les 7 ans. Et donc, c'est le sabbat. Donc, on reprend tout ce qui est bleu, plus la remise des dettes et la libération des esclaves. Donc, à chaque fois, hein, on reprend. Vous savez, c'est comme dans les options. Hein, il y a le truc de base, et après tu rajoutes hein, au fur et à mesure. Donc l'option de base, c'est le bleu. Donc la Shemitah, remise des dettes et libération des esclaves en plus du sabbat. Et puis le Yovel, c'est 1 plus 2 plus 3. Ouais, on ne voit pas très bien là. Il y a marqué restitution des propriétés. Donc sabbat plus Shemitah plus restitution des propriétés. Et ça arrive la 50e année. D'où le fait qu'après on fait le jubilé de la reine, sauf que ça n'a plus rien à voir avec ce que la Bible dit. Hein. Le jubilé de la reine en Angleterre, c'est pas parce qu'elle a 50 ans de règne que c'est le jubilé. Oui, on peut dire que c'est un jubilé, mais c'est pas le jubilé comme l'entend la Bible. Et donc, il faut faire attention parce qu'après, dans notre langage, on a un peu déformé ça et du coup, c'est pas très. On l'applique aussi à la vie chrétienne, ce qui n'est pas tout à fait ça. Donc, au bout de 50 ans, on restitue les propriétés. Alors, le sabbat, c'est quelque chose de quotidien pour instaurer un style de vie dans la façon de vivre. La Shemitah, tous les 7 ans, tu remets les dettes. Donc si quelqu'un est en dette avec toi depuis un an, c'est pas grave, ça tombe la 7e année, tu zappes. D'ailleurs, il y a un texte qui dit, et je demande au propriétaire de ne pas faire un calcul vicieux, que comme il sait que dans une année c'est fini, que finalement je lui prête que le quart de la moitié du dixième. Dieu, il sait qu'on est un peu des filous et il a anticipé ça. Et donc, il donne un fonctionnement d'équité. Donc, remise des dettes à niveau. Et puis, libération des esclaves. C'est assez impressionnant la façon dont l'esclave est traité par Dieu. On a utilisé des textes dans l'Ancien Testament pour pouvoir favoriser la traite des Noirs au nom de Dieu. Tous les gens religieux de l'époque qui ont pris ces textes-là n'ont pas dû lire la Bible une seule fois. Parce que c'est exactement le contraire avec Dieu. Et on n'est pas ici dans des esclaves comme nous on l'entend, on est avec des employés de maison. Et on dit que si tu lui casses une dent, si tu casses une dent à ton esclave, tu dois faire quoi? Tu dois réparer, et ça peut être jusqu'à la libération, anticiper. Donc on n'est pas dans la traite des Noirs là. Et y en a qui ont du mal, je ne sais pas quelle version ils avaient de la Bible, mais elle n'était pas la bonne. Et puis donc après, la restitution des propriétés, ça veut dire, en fait, ce système-là permet que celui qui est riche n'est jamais plus riche que 15 ou 20 fois de plus que celui qui est le plus faible financièrement. Le système du jubilé, il y a un économiste mondial, Tim... J'ai oublié son nom. C'est le consultant au niveau de l'ONU, au niveau économique, c'est un anglais. Et il dit, peut-être, il y a un livre qui parle de remettre régulièrement les propriétés à leur propriétaire de départ, peut-être ce serait une solution pour le 21e siècle. Il faut attendre un mec qui n'est pas chrétien pour dire ça. Et les amis, c'est le temps pour l'Église, puisqu'on est dans une crise qui ne se règle pas. Elle est économique, financière, politique. Elle est en termes de sens, puisqu'on est dans l'individualisme le plus exacerbé. C'est le moment pour l'Église de dire... On n'a pas la solution dans le sens où on n'est pas les meilleurs, mais on peut apporter une solution. Ah mais non Luc, enfin un peu d'audace, on a la solution. Non, 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 tu ne peux pas imposer Jésus. On ne fait pas une charia évangélique nous. Allô? Et donc c'est pour ça que même s'il y a des lois qui ne nous plaisent pas, on ne va pas faire le boycott de l'État. Parce qu'on ne cherche pas une charia évangélique les amis. Parce que Jésus lui-même a dit « Soumets-toi à César ». Et le César de Jésus, ben, je préfère mon François et mon Nicolas. Franchement. Donc attention comment on interprète les choses et attention comment on se laisse emballer par les médias et par la critique française qui nourrit en permanence l'insatisfaction et le fait de râler. Avant c'était mieux. Qu'est-ce qui était mieux avant? Louis XIV avec ses orgies sexuelles. Qu'est-ce qui était mieux avant? Sodome et Gomorre. Mais qu'est-ce que c'est ce... Qui sommes-nous les chrétiens? On n'a pas lu la Bible. La Bible dit « rien de nouveau, c'est pas la peine de t'étonner, tu es au milieu des loups ». C'est n'importe quoi la nation dans laquelle tu es. Donc c'est pas la peine de toujours dire « Ah, c'est pas bien, c'est de plus pire en plus pire. » C'est pas de plus pire en plus pire. Le péché, il est là. Après, il y a des textes qui disent que en cheminant, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Oui, mais le péché, il est là. Vous trouvez que Sodome et Gomorre, c'est mieux que notre situation aujourd'hui? La LGBT, elle est plus réservée par rapport à Sodome et Gomorre, hein, excusez-moi. Bon, en tout cas, je suis étonné que ce gars-là dise que l'économie, les valeurs chrétiennes de l'économie peuvent changer la société d'aujourd'hui. Et je me dis, allô, où sont les chrétiens? C'est à nous d'être là et d'occuper le terrain. Alors si on le traduit autrement, on reprend juste les versets, comme ça vous avez les références. Des fois que vous croyez que je ne dis que des bêtises. Deutéronome 5,14 et puis Deutéronome 20,8. Donc, je crois que 5,14 c'est pour dire que c'est la notion de que Dieu est propriétaire et Deutéronome 20,8 me semble-t-il, ou c'est le contraire, c'est quand il est dit que Dieu veut qu'on pratique le sabbat parce qu'il nous a libérés d'Égypte. Voilà, donc c'est la réconciliation avec Dieu et la réconciliation entre les hommes, dont je rappelle que c'est notre ministère principal à tous. La Shemitah, donc pour les textes aussi. Je propose celui de 25, Lévitique 25.2. Lévitique 25.2, limiter la consommation et les gains. On est dans une société productrice, on est dans une société consommatrice, on est dans une société matérialiste à fond les balais. Et les chrétiens, on ne se rend pas compte qu'on se fait bouffer par le machin. C'est pas un problème d'avoir des bonnes choses, des belles choses. Je préfère avoir un Mac qu'un Windows. Ça, c'est fait. Ah, puis il y a plus des fans. Et il y a des fans. C'est trop fort. Ça, c'est balèze. Oh, la pomme croquée, c'est pas bien. Donc, je n'aime pas, je ne crois pas au misérabilisme. Et je ne crois pas que Jésus, à un seul moment, parle de misérabilisme. Mais quand tu as de l'argent, pense toujours à quelqu'un qui en a moins que toi. Oui, mais Luc, c'est normal, avec ta paye de pasteur. Tu veux savoir combien je gagne ? Je ne suis pas sûr que tu veux savoir. Pour 55 heures semaine, je ne gagne pas le salaire d'un cadre. Et avec ma femme, on a fait un choix depuis déjà 15 ans et qu'on a gardé depuis 15 ans et dont on est fier. C'est de dire qu'il y a toujours une partie de notre budget, quelles que soient les circonstances. Et dedans, il y a eu des périodes où on était avec rien, puisqu'on a implanté à 3 reprises des églises et à chaque fois, on est parti de rien. On a démissionné de nos boulots, donc pas d'assédic. D'accord ? Donc quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a même pas, il y a juste la CAF, quoi. Tac. C'est pas avec la CAF que tu vis. Si c'était vrai, ça se saurait. Donc sans RSA, sans minima sociaux, hein, rien, hein, rien, juste la CAF. D'accord ? Donc, même dans ces périodes-là, on s'est imposé un pourcentage pour les plus pauvres, parce qu'il y a toujours plus pauvre que toi. Toujours, il y aura plus pauvre que toi. Et Dieu, ce qu'il veut savoir, c'est si tu accro à l'argent, pique sous. Ou si l'argent n'est qu'un serviteur et tu l'utilises pour bénir les autres. Et même si tu n'as pas beaucoup, tu as toujours une capacité à bénir quelqu'un. Toujours, toujours, toujours. Et je pense que quand on s'attache au jubilé, on comprend ce que Dieu veut véhiculer en nous. Et le royaume de Dieu se matérialise, si je peux parler comme ça, s'incarne avec cette notion du jubilé. Et le fait que Jésus dise « Je suis le jubilé » doit nous interpeller. Et quand il est dit « Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres », tu peux le traduire aux pauvres spirituels si tu veux, mais ce n'est pas le mot grec initial. Le sens initial, c'est d'aider les SDF. Dans Ésaïe, quand il est parlé du vrai jeûne, il est marqué, si vous prenez la version courante, c'est marqué comme ça d'ailleurs, des sans logis. Et si vous prenez l'hébreu, ça veut dire des gens qui n'ont pas de toi. Tu peux toujours spiritualiser, t'as le droit, mais tu ne peux pas enlever l'idée initiale. Tu n'as pas le droit de faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc si Dieu me demande de me préoccuper des pauvres, je dois le faire. 4000 versets les amis, 4000 versets. 4000 versets, 4... Pardon, j'ai mon truc qui s'est bloqué. Plein de versets. Qui parlent de la justice, qui disent que tu dois aider le plus faible, aider la veuve, aider l'orphelin, aider l'étranger tant qu'il n'est pas intégré. Ouais, il y en a marre de tous ces étrangers qui prennent le pain des Français. Où sont les chrétiens pour défendre les droits des étrangers? Où sont les chrétiens aujourd'hui? Ah, mais moi, je ne suis pas un gauchiste, hein, moi, monsieur. T'as pas besoin d'être un gauchiste, puis laisse les gauchistes faire leur boulot. Moi, je dis les extrêmes, hein, droite ou gauche, ils n'ont pas besoin de nous, hein. Je ne suis pas gauchiste, je n'aime pas le gauchisme. Je ne parle pas des gens. Mais je pense qu'on a une mission, c'est de démontrer l'amour de Dieu. On est des ambassadeurs du royaume et on doit rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, il est donné en plus. Tout le reste, il est donné en plus. Donc veille avec l'argent que tu as. Profite, bénis ta famille. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité. Mais s'il te plaît, mon ami, veille à ce qu'une partie de ton argent bénisse le plus pauvre. Parce que c'est la mission que Jésus lui-même s'est imposée quand il est venu sur terre. Il est venu pour les plus faibles, pour les plus fragiles, pour les plus délaissés. Jésus, il a donné de son temps pour les autres. Je dois le faire aussi. Et donc, on doit limiter la consommation et les gains. Je suis pour la prospérité. Je suis contre le capitalisme. Je suis pour le partage. Je suis contre le communisme. Ça va ? Je ne défends pas un système économique. Le système économique du monde sont mauvais, sont destructeurs. Ils prouvent dans l'histoire, communisme comme capitalisme, que ça détruit des gens et que ça tue des gens par milliers, bien plus que l'homosexualité. Bien plus ! Où sont les chrétiens, les amis ? C'est l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour... Ah, voilà, ça recommence, ça rebloque. L'amour... Ah non, je l'ai déjà dit. Et nous, on est en train de se battre avec des choses qui nous font très peur et nous font agir. Oh, ça c'est le péché, loin de nous, c'est le péché. Eh, mais calmos, non énervos. Hein. Réglons les problèmes chez nous. Et le problème number one dans nos vies, c'est pas le vol. Enfin, j'espère. Tu regardes s'il y a des qui lèvent leur main. Quelqu'un a un problème? Pendant que nous chantons tel que je suis, si quelqu'un vole ici, qui lève la main. J'achète. Il a sorti les menottes. Et j'ai ma carte bleu, blanc, rouge aussi. Hein. Je suis officier de police judiciaire. Et oui, donc je suis officier de police judiciaire, c'est vrai. Ça énerve certains policiers d'ailleurs. Parce qu'on a un pouvoir de police. Une fois, j'ai demandé à un capitaine ses papiers. Il n'a pas aimé. J'ai sorti ma carte bleu, blanc, rouge. Il a décliné tout de suite. Bon, bref. Ici, j'espère que personne vole. Ici, j'espère que personne tue. Ça va. Enfin, en tout cas, personne n'a dit. J'espère que on ne commet pas l'adultère. Pour l'idolâtrie, on fait quoi? On en a encore un peu. On doit balayer ça de nos vies. Et ça commence par la façon dont je gère l'argent. Tu veux savoir si tu as de l'idolâtrie dans ta vie? Fais un audit de ton fric. Le fric, c'est chic. Il n'est pas possible, ce mec. C'est ça qu'elle est en train de se dire, mais il est barge. Tu veux savoir s'il y a de l'idolâtrie dans ta vie? T'as envie de te faire mal? On va le dire autrement, t'as envie d'être honnête? Regarde comment ton argent est géré. Et regarde si tous les gains vont vers toi, ta famille. S'il y a le reste, je donnerai ma dîme. L'argent parle de qui tu es. L'argent est ta prophétesse. Elle parle pour toi sans que tu dises rien. Elle te précède dans ce que tu dis et dans ce que tu penses. Le fric, la gestion du fric détermine la gestion de ta vie. Et tu peux faire 50 heures d'affilée d'adoration à la présence de Dieu et mal gérer ton fric et être à côté de tes pompes. L'argent, c'est juste pas un détail. Et c'est juste dommage qu'on n'en parle pas plus dans nos églises. Je ne parle pas de l'argent dîme, mais de l'argent tout court. De notre façon, de notre rapport à l'argent. Et puis le Yovel, c'est la moyen de réduire l'écart riche-pauvre, puisque les propriétés et les libertés sont préservées. C'est les meilleures déclarations des droits de l'homme. Les 10 commandements, c'est la meilleure déclaration des droits de l'homme. T'as pas mieux. T'as pas mieux au monde. Il me reste, ça va, encore 5 minutes, c'est bon. Quelqu'un me donne encore 5 minutes? Qui c'est qui me donne 5 minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. On a encore au moins pour 2 heures. Ça va aller, tu vas tenir? Faut pas vous faire avoir comme ça. Alors on va comparer le jubilé avec Jérémie 29,7 qui nous dit de rechercher le bien de la ville dans laquelle on est. Parce que notre bonheur en... Vous étiez bien. Notre bonheur dépend de la ville, donc je recherche le bien de la ville. Bah, c'est égoïste alors. En fait, je recherche le bien de la ville pour être heureux? Bah oui. Mais si tu veux vraiment rechercher le bien de la ville, il faut vraiment que tu aimes les gens. Donc c'est une bonne pédagogie de laquelle Dieu ne t'exclut pas, heureusement. Alors, bâtissez des maisons, il est dit dans Jérémie 29,7. Donc c'est la notion de propriété valorisée. Et puisqu'on est dans une saison où on parle de machin pour tous, eh ben moi je dis oui, ben alors justement, défendons un toit pour tous. Et les chrétiens, ils sont où avec ça? Oh ben il y a Emmaüs, il y a l'abbé Pierre, ah non il est plus là, on fait le tour des associations qui font le boulot et on est content, on a notre conscience tranquille, c'est bon, on peut dormir sur nos deux oreilles. Je sais pas comment on fait, mais bon. En tout cas, on dort sur nos deux oreilles, on est tranquille, tout va bien. Il y a des gens qui s'occupent des sans-logés. Et les chrétiens, ils sont où? Vous savez, la mission de l'État, si vous lisez le Nouveau Testament, l'État n'a que deux missions. Que deux missions. La justice et préserver la liberté. la justice dans le sens de l'équité, mais ce n'est pas à lui de s'occuper du pauvre. Dieu a donné la mission à l'Église de s'occuper du pauvre. Ah. Bâtissez des maisons, donc ça veut dire qu'on doit s'impliquer aussi dans la façon dont les gens vivent. Donc on bâtit des maisons, ça veut dire qu'on essaye de voir, de préserver la vie, la dignité des gens. Je passe assez rapidement, mais on pourrait donner plein d'exemples. Planter des jardins, toujours dans Jérémie 29,7. Et donc si tu le mets en lien aussi avec le jubilé, il y a cette notion de préserver la terre, et aussi de se nourrir, et puis aussi du beau. Parce que le jardin, c'est beau. Un jardin peut être complètement à l'abandon, ou au contraire être très beau. Je ne sais pas ce que vous préférez, moi je préfère un jardin qui est beau. Naturellement, tout le monde a plutôt envie d'aller dans un endroit où c'est joli, plutôt que dans un endroit où c'est une décharge publique, par exemple. Je ne sais pas si vous avez envie de pique-niquer dans une décharge publique. Si on n'a pas d'odorat, ça va, c'est pas trop grave. Et qu'on voit pas trop bien. Mais... Non, donc planter des jardins, on a cette notion de... Ça revient au commandement de Dieu, au départ, Adam et Ève, de planter le jardin et de le cultiver. Il y a un sens d'ordonnancer la terre et de la mettre sous contrôle. Mais pas sous contrôle dans le sens de l'exploitation, sous contrôle dans le sens de la préservation. Et Dieu est le premier écologiste. Sauf qu'il n'est pas vert. Sa religion n'est pas l'écologie. Et donc, on devrait être un peu écolo. Donc, un peu gauchiste. Non. Un peu communiste. Allez, soyons fous. Un peu communiste, un peu écolo. Un peu UMPiste, puisqu'on est dans la prospérité aussi. On peut être de tout, hein. Mais Jésus, il ne prend pas parti. Et il demande à ses enfants de ne pas prendre parti. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans un parti politique. C'est, fais attention à tes postures. Le monde développe des postures. Nous, on n'est pas dans les postures, on n'est pas dans la religion de l'idéologie. On est dans le fait d'aider les autres et donc de préserver. Et parce qu'on veut aider les autres, on pense aussi à la terre et à ceux qui viennent après nous. On ne sait pas jusque quand, vous savez quand Jésus revient, vous ? Vous n'avez pas l'info ? Bah, j'étais venu pour... on m'a dit, à Aubergenville, ils savent tout. Je me suis dit, je vais leur demander quand Jésus revient, parce que j'aimerais bien savoir. Est-ce que je peux faire un projet dans ma vie ou pas ? Ensuite, il est dit fonder une famille. Alors j'ai mis une famille comme on le voit en Afrique, c'est-à-dire une famille où c'est mélangé. La famille dans la Bible, c'est pas papa, maman et les enfants. Ça, c'est très nucléairement occidental. La famille dans la Bible, c'est toujours les proches et les employés de maison. Et là, ici, on est dans une famille où il y a des gens, il y a même des blancs. Alors, tu vois un peu, c'est pour dire. Hein. Elle n'est pas normale, cette famille. Hein. La famille, c'est les plus proches autour de toi. Et donc, quand on dit fonder une famille, on parle de cette notion de créer du lien, de créer de la relation. Et plutôt que d'aller, excusez-moi d'être trivial, gueuler au loup, on va plutôt construire, favoriser une vie de communauté et des valeurs qu'on met en avant, qu'on met comme une façon de vivre et pas comme une réaction au système. La réaction au système n'est pas productrice. Elle ne produit pas de fruits. Et d'ailleurs, vous ne voyez pas Jésus être en réaction du système. Vous avez vu qui il a attaqué ? Plutôt les pharisiens. La société qui était pourrie, il a dénoncé, mais il n'a pas été en réaction à chaque fois. Il a fait des choses positives. Déjà, le fait de venir sur la terre, c'est juste éminemment, incroyablement fort dans l'amour. Donc, des valeurs à positiver. Et puis, on pourrait dire, le dernier texte, enfin, le dernier mot sur Jérémie 29,7, c'est de développer la ville. Il y a bien cette notion économique à développer. Et donc là, ça parle d'économie. Ça parle de santé. Le mot shalom, je l'ai dit hier, hein, je crois. Le mot shalom, donc ceux qui étaient là hier, tiens. Petite interrogation surprise. Prenez vos stylos, papier. Et que j'entende personne chuchoter. Alors, c'est quoi les cinq sens de shalom ? Alors, paix. Il y a deux étapes dans la paix. Paix avec et avec. Paix avec Dieu, paix avec les hommes. Merci. Ensuite, le troisième. C'est pas grave si vous ne l'avez pas dans l'ordre. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quelqu'un a dit économie ? Oui, donc économie, prospérité, santé et amitié. Donc développer l'amitié avec les autres. Hein. Et là, on parle des autres, des gens de la cité. Donc développer l'économie, c'est développer ce qui fait sens commun à nous tous. Donc on n'est pas des chefs d'entreprise forcément, on n'est pas des politiques forcément, mais en tant que chrétien, on doit peser sur les décisions par une influence positive. Plutôt que d'être réactionnaire, soyons vus comme des gens qui proposent des choses positives. Et donc, soyons présents dans la cité, avec des associations, avec des gens qui sont citoyennement actifs. Pourquoi on laisserait la place aux francs-maçons ? Pourquoi on laisserait la place aux islamistes ? Pourquoi on laisserait la place juste aux gens religieux ? Mais que les chrétiens engagés avec Jésus ne soient pas présents. Il manque pas quelqu'un là ? On doit occuper notre place. On n'est pas là pour la charia évangélique. On n'est pas là pour imposer notre loi. Je rappelle que la morale est une conséquence de la foi et pas le contraire. Et que donc nous, on a choisi une bonne morale parce qu'on a la foi en Christ. Sinon, vous et moi, on ne serait pas là. Pas vrai ? Donc on ne peut pas imposer ça aux autres. Par contre, on doit influencer, on doit être présent pour peser sur les décisions le plus possible. Et je mets juste le défi Miché. On vient de donner en Australie pour le G20 là une pétition de plusieurs millions de chrétiens. J'espère qu'il y aura votre signature. Sinon, vous pouvez toujours la signer. Je crois que c'est encore temps. Le défi Miché qui fait une campagne contre la corruption de l'argent. Ben voilà quelque chose sur lequel positif les chrétiens peuvent aller. Parce que c'est pas une pétition pour dire « il y en a marre du sale, de l'argent sale ». C'est « on vous propose des choses pour changer la pratique de l'argent dans l'entreprise, dans le gouvernement, dans la vie associative, etc. » Les chrétiens sont des moteurs pour faire bouger les choses. Et donc, dans le quotidien, ça veut dire quoi ? Ce qu'on vient de dire sur la question de l'argent et de l'économie. Il y a deux choses. La première, c'est comment je gère mon argent ? Quel est mon rapport à l'argent ? Et ça, c'est mon mot de conclusion. Comment je gère mon argent ? Je l'ai dit tout à l'heure, je redis ça. Comment est-ce que je gère mon argent ? Est-ce que l'argent a une bonne odeur chez moi ou pas ? L'argent n'a pas d'odeur. Si, il a l'odeur. Il a soit la bonne odeur du Christ, soit l'odeur de la gestion humaine. Ça peut devenir l'odeur diabolique. Mais sans aller jusque-là, déjà la deuxième, c'est pas bon. Donc comment tu gères ton argent ? Et ça ne veut pas dire que quand tu vas dans un magasin, si tu vas chez H&M, et tu dis « Seigneur, est-ce que je peux prendre cette robe-là » ou c'est pas ça. Hein. C'est de soumettre sa façon de gérer l'argent. Et Dieu nous laisse autonome. Il ne nous a jamais demandé d'être piloté à chaque seconde, à chaque instant, de comment on fait notre vie. Non, il a laissé une autonomie, un choix à l'homme. Et donc on doit l'utiliser, mais on doit l'utiliser sous contrôle du Saint-Esprit. Comment est-ce que je gère mon argent ? Est-ce qu'il y a de la place pour le plus faible ? Est-ce que dans mon budget, il y a de la place pour le plus pauvre ? Est-ce que dans mon budget, je ne pourrais pas mettre de l'argent pour participer à améliorer la vie de quelqu'un ? Ouais, si c'est pour encore aider des feignasses, non, t'es pas obligé d'être réac. T'es pas obligé. Tu peux être juste bénissant. Et la deuxième chose, c'est comment en tant qu'église, on peut faire quelque chose qui vise la cité ? Et à mon avis, aujourd'hui, ce qui est le mieux, c'est de toucher dans l'économie. C'est de toucher que l'Église fasse une action dans la ville qui permet de toucher au problème qui est crucial pour nous aujourd'hui. Hier, ceux qui étaient là vont se rappeler qu'on doit faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Donc dis-toi que si tu étais au chômage, tu voudrais un boulot. Alors agis dans ce sens, parce que c'est ce que Dieu veut faire, sans culpabilisation possible. Juste de dire, Seigneur, j'ai envie d'avoir un évangile pratique. J'ai envie d'avoir la matérialisation de ce que je vis spirituellement. Ça s'appelle l'incarnation, si on veut dire un mot plus chrétien. Amen. Je voudrais juste qu'on, éventuellement, si on a le désir d'aller plus loin avec Dieu dans cette question-là, qu'on puisse faire une démarche avec Dieu dans son cœur et de dire ben oui, Seigneur, je vois bien qu'il y a des trucs là que j'ai pas bien compris ou pas bien creusé, mais je vois bien que je suis interpellé là. Et si tu vois que Dieu t'interpelle sur des choses qu'on a dit aujourd'hui, ou peut-être même pour ceux qui étaient là hier, que tu as vu ou ressenti hier, j'aimerais juste qu'on puisse répondre à Dieu. On veut pas être des chrétiens, tu sais, qui viennent juste écouter et puis mettre pas en pratique. Hein. Ça, c'est Jacques qui dit. Jacques a dit. Donc Jacques a dit, normalement, on doit faire. Donc Jacques a dit, écouter une prédication, c'est bien. La pratiquer, c'est mieux. Donc pratiquons. Soyons des pratiquants. Dans notre contexte français, les pratiquants, c'est ceux qui vont à la messe. Mais Jacques a dit, les pratiquants, c'est ceux qui font dans le quotidien des choses pour les autres. On a un évangile de l'action, on va agir. Venir à l'église, dans le sens d'un lieu ici, hein, je parle, parce qu'on est l'église, hein, donc on n'a pas besoin du lieu. Mais venir dans un lieu spécifique, c'est bien, c'est nécessaire, c'est utile, c'est constructif. Ne faire que ça de sa vie chrétienne, c'est nul. C'est assez violent. C'est nul. Ça ne sert pas à te faire grandir dans la foi. Ça te fait juste enfler dans la foi. Ça fait de l'inflation. Un jour, ça explose. Et ça n'est utile à personne dans la société. Jésus, s'il était juste avec une intention, venu juste au bord du ciel, tu vois, vu de tous les hommes sur la terre, ça n'aurait pas eu l'efficacité que ça a eu parce qu'il est venu dans notre quotidien. Allons dans le quotidien des gens avec la foi que nous avons, et pas juste pour faire notre boulot, mais pour faire des œuvres qui démontrent l'amour de Dieu. Donc si tu as envie de répondre à ça, tu peux te lever à ta place, c'est pas obligé. J'ai un quota, il faut que j'ai au moins la moitié de la salle, sinon je pars pas. Non, s'il y a personne qui se lève, ça n'a pas de problème, ça ne pose pas de souci pour moi. Juste, ne repars pas en te disant, bon, oh, c'était sympa, le mec qui fait un peu rire, mais bon. Si juste tu peux te dire, j'ai quelque chose à progresser avec ça, alors ça vaut la peine que je me sois déplacé, que je me sois fatigué. J'espère toujours que je ne prêche pas pour rien. Donc j'ai toujours des amis à moi, une trentaine, qui prient. Et vous savez, je leur demande, priez pas trop pour moi, c'est pas très nécessaire, mais priez pour les gens à qui je prêche, pour que quand ils dorment la nuit d'après, ils ne soient pas tranquilles. C'est vache, hein ? Alléluia. Seigneur, je prie pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Moi, je parle avec mes mots, avec mes limites, avec ma compréhension qui est rétrécie par rapport à ce qui tu es, toi. Mais Seigneur, je prie pour qu'elle produise le fruit pour lequel elle a été déclarée. Chaque parole que tu as dite a un effet même rétroactif, a un effet même des années après, même des centaines d'années après, même des milliers d'années après. Ta parole, elle est puissante, elle est agissante, et je crois à ta parole, et je crois qu'elle est la vérité, et je crois que le Saint-Esprit l'utilise pour percuter nos cœurs, pour chambouler les murs de raisonnement, pour les ébranler, jusqu'à les casser, les démolir, pour qu'on puisse être affranchi et vivre pleinement la foi que tu veux qu'on manifeste dans cette vie du royaume de Dieu. Seigneur, je prie qu'on puisse vivre la centralité, que ce soit posé comme une pierre angulaire dans notre vie, que ce soit le central de notre vie. Seigneur, qu'on puisse être adorateur. Je prie aussi que la vie fraternelle se développe, la communauté, et même ce repas là tout à l'heure, qu'il y ait de la convivialité, de la chaleur, pas quelque chose d'éphémère, mais quelque chose qui creuse dans nos cœurs et qui tisse du lien, et qui tisse une solidité, une solidarité entre les uns et les autres de cette Église. Mais je prie qu'on n'en reste pas là, et qu'en tant qu'Église, on puisse aussi agir dans cette cité, et dans les villes ou villages qui entourent cet endroit. Seigneur, je prie pour ta parole parce que je crois qu'elle est la vérité et je crois qu'elle est percutante. Seigneur, viens par ton esprit et on dit que ton règne vienne. Et ce n'est pas une formule magique, on n'en a rien à faire des prières récitées. Mais tu nous as donné ce principe parce que tu sais que cette prière a tous les ingrédients vitaux de la vie quotidienne. Et Seigneur, je prie que ton règne vienne dans nos vies ici à tous, personnellement, individuellement, en termes de famille, mais aussi en termes de collectivité, en termes de collectif, de communauté. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite exactement comme elle est programmée au ciel, qu'elle se réalise dans nos vies et que les œuvres préparées d'avance par toi, qu'on puisse y entrer et qu'on puisse manifester ton règne dans les choses qui sont des œuvres que les gens voient et que les gens voient les œuvres comme il est dit dans Matthieu et qu'en voyant ces œuvres, ils donnent gloire à Dieu. On ne sait pas s'ils vont se donner à toi, on ne sait pas s'ils vont être changés, mais on sait qu'ils vont donner gloire à Dieu, ils vont dire « Waouh, ces gens-là ne sont pas normaux, mais ça nous interpelle, ça nous laisse pas tranquilles ». Seigneur, qu'on puisse être des gens qui agissent dans la cité et qui sont des lumières, qui sont des choses distinctives, distinctes de ce monde. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans nos vies et qu'on puisse voir que le pardon est effectif, qu'il est actif en nous, qu'on puisse voir que tu es notre pain quotidien, tu es celui qui est le sabbat, tu es toi-même le sabbat, tu es toi-même le jubilé, comme tu l'as dit dans ta parole. Seigneur, nous accueillons ta présence. Et nous accueillons ta personne dans nos vies. Nous ne voulons pas être des consommateurs de réunions, nous voulons être des consommateurs de ton règne. On est au bénéfice, on consomme de ta grâce, on consomme de ton amour, mais on est aussi acteur avec toi, on est co-ouvrier. Seigneur, je prie pour cette église, je parle sur cette église et j'appelle des ouvriers acteurs, j'appelle des ouvriers qui vont agir pour ton règne. Alléluia, sois glorifié Seigneur. Amen.